Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de lire la vie des autres, dans la rue, dans le journal, dans les romans. Et parfois, je tombe sur un roman qui me va comme un gant, parce qu'il arrive au bon endroit, au bon moment, parce qu'il me parle de moi, et de toutes ces choses qu'on ne peut dire à personne, de ces choses qu'on ne s'avoue même pas à soi. Elles sont là, dans le texte, qui me reflète et m'éclaire. Et même, il arrive que le texte ne soit qu'un prétexte, je me raconte des histoires à partir de quelques mots, je brode. Et si je relis le roman quelques années plus tard, ce n'est pas du tout le même roman, et je me demande ce que j'ai pu lui trouver d'intéressant. Il y a des romans qu'il ne faut lire qu'une seule fois. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et pourtant, ce soir, je reviens à un roman qui est de Françoise Sagan. C'est l'histoire d'une femme qui a presque 40 ans, à la fois bourgeoise et précaire. Son amant a beau avoir une voiture rapide, l'amour s'use. Un deuxième amant lui arrive, et les sentiments, et la tristesse, et la mélancolie.
D'inutiles regrets au fond de nos jardins secrets et dans leur coin le vieux remords 20 ans après fleurissent encore ainsi nos chemins se jalonnent de choses qu'on ne peut dire à personne leur sève, des pleurs qu'on ravale, des vieux rêves. Tout ce que nous sommes seuls à savoir devient le lierre de nos mémoires et donne à l'air le goût d'automne.
Des choses qu'on peut dire. Paul contemplait son visage dans la glace et en détaillait les défaites accumulées en 39 ans, une par une, non point avec l'affolement, l'acrimonie coutumier en ce cas, mais avec une tranquillité à peine attentive. Comme si la peau tiède, que ses deux doigts tendaient parfois pour souligner une ride, pour faire ressortir une ombre, eût été à quelqu'un d'autre, à une autre Paul, passionnément préoccupé de sa beauté et passant difficilement du rang de jeune femme au rang de femme jeune. Une femme qu'elle reconnaissait à peine. Elle s'était mise devant ce miroir pour tuer le temps et, cette idée la fit sourire, elle découvrait que c'était lui qui la tuait à petit feu, doucement, s'attaquant à une apparence qu'elle savait avoir été aimée. Roger devait venir à 9 heures. Il en était 7. Elle avait tout le temps de s'allonger sur son lit, les yeux fermés, de ne penser à rien, de se détendre, de se relaxer. Mais à quoi pensait-elle de si passionnant, de si exténuant dans la journée pour devoir s'en reposer le soir? Et cette nonchalance inquiète qui la menait d'une pièce à l'autre, d'une fenêtre à l'autre, elle la reconnaissait bien. C'était celle de son enfance, les jours de pluie.
L'épreuve où l'on s'est trouvé lâche. Triste courage qu'on cache. On n'oublie ni ne
pardonne. Les choses qu'on ne peut dire à personne.
Elle entra dans la salle de bain, se pencha pour toucher l'eau dans la baignoire, et ce geste lui en rappela subitement un autre. Il y avait près de 15 ans. Elle était avec Marc, ils passaient leurs vacances ensemble pour la seconde année, et déjà elle sentait que tout cela ne pourrait durer. Ils étaient sur le voilier de Marc, la voile battait au vent comme un cœur incertain. Elle avait 25 ans. Et subitement, elle s'était sentie envahie de bonheur, acceptant tout de sa vie, acceptant le monde, comprenant en un éclair que tout était bien. Et pour cacher son visage, elle s'était penchée sur le plat-bord, cherchant à tremper ses doigts dans l'eau fuyante. Le petit voilier avait gité, Marc lui avait lancé un de ces regards atones dont il avait le secret, et en elle, aussitôt l'ironie avait remplacé le bonheur. Bien sûr, elle avait été heureuse ensuite, avec ou par d'autres, mais jamais de cette manière totale, irremplaçable. Et ce souvenir ressemblait finalement à celui d'une promesse mal tenue.
Des vieux regrets que l'on n'exprimera jamais. Pourquoi donc tous ces vains remords reviennent nous accuser encore? Et le cœur peine chargé du poids de ce que l'on doit garder pour soi.
Roger allait venir, elle lui expliquerait, elle essaierait de lui expliquer. Il dirait « oui, bien sûr », avec l'espèce de satisfaction qu'il prenait chaque fois à découvrir les tricheries de la vie. Un réel enthousiasme à commenter l'absurdité de l'existence, leur entêtement à la prolonger. Seulement, tout cela était compensé chez lui par une incessante vitalité, de durs appétits et au fond, un grand contentement d'être qui ne s'arrêtait qu'avec son sommeil. Alors, il s'endormait d'un coup, la main sur le cœur, aussi attentif à sa vie en dormant qu'éveillé. Non, elle ne pourrait pas expliquer à Roger qu'elle était lasse, qu'elle n'en pouvait plus de cette liberté installée entre eux comme une loi, cette liberté dont il était le seul à se servir et qui ne représentait pour elle que la solitude. Elle ne pourrait pas lui dire qu'elle se sentait parfois comme une de ces femelles âpres et possessives qu'il haïssait. Brusquement, son appartement désert lui parut horrible et inutile. À 9 heures, Roger sonna et en lui ouvrant, en le voyant souriant, un peu massif, devant la porte, elle se dit, une fois de plus et avec résignation, que c'était là son destin et qu'elle l'aimait. Il la prit dans ses bras. « Que tu es bien habillée, je m'ennuyais de toi. Tu es seule ? Oui. Entre. Tu es seule. Qu'eût-il fait si elle lui avait répondu « Non, tu tombes mal. » Mais depuis 6 ans, elle ne l'avait jamais dit. Il ne manquait pas de le lui demander, de s'excuser parfois de la déranger, par une rouerie qu'elle lui reprochait plus que son inconstance. Il ne pouvait même pas admettre l'idée qu'elle pût être seule et malheureuse par lui. Elle lui sourit, il ouvrit une bouteille remplie de verre, s'assit. « Viens près de moi, Paul, où veux-tu que nous allions dîner ?» Elle s'assit près de lui, il avait l'air là, lui aussi. Il lui prit la main, la serra. « Je nage dans les complications, dit-il. Les affaires sont idiotes, les gens sont bêtes et mous, comme il n'est pas possible. Ah, tu sais, vivre à la campagne. » Elle se mit à rire. « Ton quai de Bercy te manquerait, et tes entrepôts, et tes camions, et tes longues nuits dans Paris. » À la dernière phrase, il sourit, s'étira et se laissa tomber en arrière sur le divan. Elle ne se retourna pas. Elle regardait sa main qu'il avait laissée sur la sienne, une large main ouverte. Elle connaissait tout de lui, ses cheveux drus et plantés bas, l'expression exacte de ses yeux bleus peu saillants, le pli de sa bouche. Elle le savait par cœur. « À propos, dit-il, à propos de mes folles nuits, j'ai été ramassé par des agents l'autre soir, comme un gamin. Je m'étais battu avec un type. » À plus de 40 ans, au poste, tu te rends compte? Pourquoi te battais-tu? Je ne me rappelle pas, mais il était mal en point. et comme si le souvenir de cette démonstration physique l'avait ranimé, il se leva d'amont. « Je sais où on va, » dit-il. « Au Piémontias. Après, on ira danser, si tu veux bien considérer que je danse. » « Tu te promènes, » dit Paul, « tu ne danses pas. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Si tu parles des malheureuses que tu subjugues, » dit Paul, « c'est autre chose. » Ils se mirent à rire. Les petites aventures de Roger étaient un excellent sujet de plaisanterie entre eux. Paul s'appuya au mur un instant avant de mettre la main sur la rampe. Elle était sans courage. Dans la voiture de Roger, elle mit la radio d'une main distraite. Elle entrevit une seconde, sous la lumière blafarde du tableau de bord, sa propre main, longue et soignée. Les veines s'étalaient dessus, commençaient à grimper à l'assaut des doigts, s'entremêlaient en un dessin désordonné. « À l'image de ma vie, » pensa-t-elle. Puis elle réfléchit aussitôt que cette image était fausse. Elle avait un métier qui lui plaisait, un passé sans regret, de bons amis, et une liaison durable. Elle se tourna vers Roger. « Combien de fois ai-je fait ce geste, allumer la radio de ta voiture en partant dîner avec toi ?»« Je ne sais pas. » Il lui jeta un coup d'œil oblique. Malgré le temps et la certitude qu'il avait de son amour pour lui, il restait étonnamment sensible à ses humeurs, toujours aux aguets. Comme au premier temps, elle réfréna un « te souviens-tu » et décida de faire très attention ce soir-là à sa propre sentimentalité. « Ça te paraît usé ?»« Non, c'est moi qui me sens un peu usé, parfois. » Il tendit la main vers elle, elle la prit entre les siennes. Il conduisait vite, les rues connues se pressaient sous la voiture, Paris luisait d'une pluie automnale. Il se mit à rire. « Je me demande pourquoi je conduis si vite. Je crains que ce ne soit pour faire le jeune homme. » Elle ne répondit pas. Depuis qu'elle le connaissait, il faisait le jeune homme. Il était le jeune homme. Ce n'était que depuis peu qu'il le lui avouait et cet aveu même lui faisait peur. Elle prenait une peur grandissante du rôle de confidente où elle se laissait glisser à force de compréhension, à force de tendresse. Il était sa vie, il l'oubliait et elle l'aidait à l'oublier avec une pudeur tout à fait honorable. Ils dînèrent tranquillement en parlant des ennuis communs à toutes les entreprises de transport comme celle de Roger. Puis elle lui raconta deux ou trois anecdotes amusantes sur les magasins qu'elle décorait. Une cliente de Fat voulait absolument qu'elle s'occupât de son appartement. Une américaine, assez riche. « Vandenbesch ?» dit Roger. « Ça me dit quelque chose. Ah oui !» Elle haussa les sourcils. Il avait l'air allègre que lui donnaient certaines catégories de souvenirs. Je la connaissais dans le temps, avant la guerre, je crains. Elle était toujours chez Florence. Depuis, elle s'est mariée, divorcée, etc. Oui, oui, dit-il rêveur, elle s'appelait... Il l'agaçait, elle eut brusquement envie de lui planter sa fourchette dans la paume. Son prénom m'indiffère, dit-elle. Je crois qu'elle a pas mal d'argent et aucun goût. Exactement ce dont j'ai besoin pour vivre. « Quel âge a-t-elle maintenant ?»« Dans les 60, » dit-elle froidement, et en voyant l'expression de Roger, elle éclata de rire. Il se pencha à travers la table, la fixa. « Tu es vraiment horrible. Tu fais tout pour me déprimer. Je t'aime quand même, mais je ne devrais pas. » Il se plaisait à jouer les victimes. Elle soupira. « Quoi qu'il en soit, j'y vais demain, avenue Kléber. J'ai des besoins d'argent qui deviennent angoissants. Et toi aussi ?» ajouta-t-elle vivement comme il levait la main. « Parlons d'autre chose, » dit-il. « Allons danser un peu. » Dans la boîte de nuit, ils s'assirent à une petite table, loin de la piste, et regardèrent défiler les visages sans un mot. Elle avait sa main sur la sienne, elle se sentait parfaitement en sécurité, parfaitement habituée à lui. Jamais elle ne pourrait faire l'effort de connaître quelqu'un d'autre, et elle puisait en cette certitude un bonheur triste. Ils dansèrent, ils la tenaient solidement, traversant la piste d'un bout à l'autre sans aucun rythme, l'air très content de lui-même. Elle était très heureuse. Plus tard, ils revinrent en voiture, il descendit et la prit dans ses bras devant le porche. « Je te laisse dormir. À demain, mon chéri. » Il l'embrassa légèrement et partit. Elle agita la main, il la laissait dormir de plus en plus souvent. Son appartement était vide et elle rangea méticuleusement ses affaires avant de s'asseoir sur le lit, les larmes aux yeux. Elle était seule, cette nuit encore, et sa vie à venir lui apparut comme une longue suite de nuits solitaires, dans des draps jamais froissés, dans une tranquillité morne comme celle d'une longue maladie. Dans son lit, elle étendit le bras instinctivement comme s'il y avait un flanc tiède à toucher. Elle respirait doucement comme pour protéger le sommeil de quelqu'un. Un homme ou un enfant, n'importe qui ait besoin d'elle, de sa chaleur pour dormir et s'éveiller. Mais personne n'avait vraiment besoin d'elle. Roger, peut-être, par à coup, mais pas vraiment, pas de cette façon, non pas passionnelle, mais physiologique qu'elle avait parfois ressentie. Elle remâchait doucement, amèrement, sa solitude.
Et du poids, de ce qui ne peut dire même à toi.
Roger laissa sa voiture devant chez lui et marcha à pied un long moment. Il respirait profondément, allongeait son pas peu à peu. Il se sentait bien. Il se sentait bien chaque fois qu'il voyait Paul. Il n'aimait qu'elle. Seulement, ce soir, en la quittant, il avait senti sa tristesse et il n'avait su que dire. Elle lui demandait quelque chose confusément, il le savait bien, quelque chose qu'il ne pouvait pas lui donner, qu'il n'avait jamais pu donner à personne. Sans doute, il aurait dû rester avec elle et lui faire l'amour. C'était encore le meilleur moyen de rassurer une femme. Mais il avait envie de marcher, de parcourir les rues, de rôder. Il avait envie d'entendre le bruit de son pas sur le pavé, de surveiller cette ville qu'il connaissait si bien et peut-être d'en surprendre les occasions nocturnes. Il se dirigea vers les lumières au bout du quai. Je vous ai lu les premières pages du roman de Françoise Sagan, Aimez-vous Brahms, paru chez Julliard en 1959.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.